Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Le feuilleton Média Pro continue, les chiffres des podcasts, la gagnante de Koh-Lanta et Netflix qui ne plie pas.
On commence comme chaque lundi avec les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Danny Boone sur TF1 a affronté James Bond sur France 2. La comédie superchondriaque était confrontée à Spectre. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un match qui avait déjà eu lieu en octobre 2018. Les deux chaînes avaient programmé le même film
c'est
le même
vrai.
Soir. Mais contrairement à 2018, c'est James Bond qui l'a emporté, malgré en plus un bug sur certaines box Orange. 4 700 000 téléspectateurs pour Spectre, soit 21,2% du public, contre 3 900 000 personnes et 16,3% pour Superchondriaque. C'est quasiment l'inverse des scores de 2018.
Mais c'est peut-être parce que les gens qui ont vu Superchondriaque sont cette fois-ci allés voir le James Bond.
Plus tard, ils sont allés voir James Bond. En tout cas, TF1 peut quand même un peu se consoler. La chaîne est leader de justesse sur les femmes de moins de 50 ans à 24%, soit 4 points de plus que France 2. Et c'est France 3 qui prend la troisième position avec la suite des enquêtes de Vera. 3 700 000 téléspectateurs et 14,8% de part d'audience.
Et samedi soir?
Alors c'est France 3 cette fois qui l'a emporté. Avec une rediffusion de Mancheville, 5 400 000 téléspectateurs et 21,9% de part d'audience. C'est un excellent score et surtout c'est 200 000 de plus que le Mancheville inédit de samedi dernier.
Ça c'est l'effet Glagla, c'est parce qu'il faisait très très froid.
TF1 est deuxième, avec, on va en parler de l'effet Glagla, avec les Energy Music Awards qui gagnent 1 million de téléspectateurs sur un an à 5 100 000 personnes. Mais il y avait beaucoup plus de monde devant la télé que pour l'édition 2019. Résultat, ils prennent 1 million mais les parts d'audience sont en baisse. 22,3% sur l'ensemble du public et un très bon 39% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais dans les deux cas, c'est 3 points de perdu sur un an. Enfin, habitué au top 3, France 2 n'est que 5e sous le million avec le Téléthon. C'est la série The Rookie de M6 qui se classe 3e sur la soirée de samedi.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec des chiffres encore, les chiffres de consommation des podcasts en novembre.
Ils viennent d'être publiés par Médiamétrie. 104 millions de podcasts français ont été consommés à travers le monde le mois dernier. C'est 9% de plus qu'en début d'année. Et à elle seule, Europe 1 pèse 11% de l'ensemble du marché du podcast français, soit 4 points de plus qu'en janvier. En tête des podcasts les plus populaires de la station, On de la Traconte, qui est aussi le podcast de récit le plus populaire de France.
Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Culture Média sur Europe1.fr. On parle de football maintenant et de gros sous. Mediapro n'a pas versé les 152 millions d'euros qu'il devait à la Ligue de football professionnel, la LFP.
L'échéance était fixée à avant-hier, mais le groupe sino-espagnol n'a pas payé. En réalité, ce n'est pas une surprise. Le diffuseur de la quasi-totalité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est toujours en conciliation avec la LFP pour réduire le montant de ses échéances. Cette conciliation devrait prendre fin dans les jours à venir et rien ne dit qu'une solution sera trouvée. En attendant, Mediapro estime ne pas avoir à payer. Les clubs de foot sont de leur côté de plus en plus inquiets. Ils dépendent financièrement du paiement de ces droits dont une partie leur est reversée par la LFP. Heureusement, les autres partenaires du foot français, eux, ont réglé leur échéance. Bein Sport, Canal Plus et Free, ça représente environ 30% de ce qu'elle aurait dû toucher si Mediapro avait aussi payé sa part.
Alors, la question à 1 milliard, est-ce qu'on sait ce qui va se passer si la Ligue récupère ses droits à l'issue de la conciliation avec Mediapro?
Alors, Canal Plus serait prêt à racheter les droits de la Ligue 1, mais pas au prix promis par Mediapro. Selon l'équipe, le groupe français pourrait régler 590 millions d'euros par an, auxquels s'ajouteraient potentiellement 100 millions de bonus si son nombre d'abonnés augmentait de manière significative grâce au foot. Ça fait donc 690 millions d'euros par an pour l'intégralité de la Ligue 1, c'est-à-dire le lot de Mediapro, mais aussi celui que Canal+ diffuse déjà, un montant bien loin des 1 milliard 200 000 euros que la Ligue espérait.
Le prix Albert Londres a été remis samedi à un journaliste du Monde.
Il s'appelle Alan Cavall, il a 31 ans et c'est sa série d'articles consacrés à l'enfer syrien qui a été récompensé. Le journaliste a accepté son prix sur un lit d'hôpital. Il a été grièvement blessé sur le terrain début octobre lors d'un reportage dans le Haut-Karabakh et il est encore en convalescence. Ce prix Albert Londres s'ajoute au prix Bayeux des correspondants de guerre et au prix Ouest France Jean Marin qu'il a remporté plus tôt cette année. Dans la catégorie audiovisuelle, Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard ont été récompensés pour le documentaire Tous surveillés 7 milliards de suspects diffusé sur Arte et Varok vous en parlera tout à l'heure à 10h.
Oui, Varok surveille tout. Le focus programme du jour, c'est le même que vendredi, c'est la finale de Koh-Lanta.
Oui, oui, sauf que cette fois, on sait qui a gagné,
ah
c'est
oui.
le principe.
C'est vrai.
La terrible épreuve des poteaux a été remportée par Brice, qui a choisi Alexandra pour l'accompagner en finale. Loïc a donc été éliminé. Puis, le jury final s'est prononcé et son vote a été révélé en direct à Paris. Ils ont choisi Alexandra comme grande gagnante et elle a remporté les 100 000 euros promis au vainqueur. Alors, cette victoire est assez improbable quand on se souvient des débuts très difficiles de la candidate dans l'aventure. La mère de famille s'est révélée au fil des épisodes, mais elle nous a tout de même avoué que jusqu'au bout, elle était persuadée de ne pas gagner.
En fait, je ne m'attendais pas à gagner, que ce soit face à Loïc ou face à Brice en finale. Alors oui, j'étais embêtée d'avoir gagné quand j'ai regardé Brice à l'annonce du verdict, parce que ça m'a fait de la peine pour lui. Il s'est battu tout au long de l'aventure, c'était un formidable aventurier. Il a gagné les poteaux, il était méritant aussi. Les autres candidats ont cru en moi. Ça m'a vraiment touchée qu'ils votent pour moi, même si c'était serré avec Brice. Ça va m'aider à prendre confiance en moi, je pense, pour l'avenir. Je vais garder une grande partie du gain pour mes filles, parce que c'est pour elles que je me suis battue et que j'ai participé à Koh-Lanta, et donner une partie à la Fondation ARC, au fonds dédié à la recherche du cancer du pancréas pour Bertrand Kamal.
6 300 000 personnes étaient au rendez-vous pour cette finale de Koh-Lanta, soit le record de l'émission cette saison. Vendredi soir, TF1 a fédéré 28,5% du public et 44% des femmes de moins de 50 ans. Des scores phénoménaux pour une émission qui s'apprête à fêter ses 20 ans et dont une nouvelle saison vient tout juste d'être mise en boîte.
Et puis dans ce journal des médias, un appel à l'aide, celui de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Oui, c'est cet organisme qui est chargé de récolter et de reverser les droits des artistes. Mais la crise sanitaire ne l'a pas épargné. La scène musicale française est quasiment à l'arrêt et les recettes de la SACEM devraient baisser de 30% cette année, soit 290 millions d'euros de moins. Une somme conséquente qui ne pourra donc pas être reversée aux artistes. Au lieu de remettre ces traditionnels grands prix de la SACEM, aujourd'hui, l'organisme a décidé de remettre sur pied à la place une journée de soutien à la scène française et d'appeler le gouvernement à lui venir en aide. Mais pas seulement. La SACEM s'adresse aussi aux radios françaises et leur demande de diffuser davantage de chansons françaises. Un geste qui ne coûtera pas un centime aux stations, mais qui permettra de reverser davantage de droits aux artistes français.
Et puis on termine ce journal avec Netflix qui a décidé de ne pas plier.
Le géant du streaming n'a pas l'intention d'accéder à la demande du ministre de la Culture britannique. La semaine dernière, on en avait parlé, Oliver Dowden s'était penché sur la série The Crown, diffusée sur Netflix. Il avait suggéré à la plateforme de préciser avant chaque épisode qu'il s'agissait bel et bien d'une fiction. Il souhaitait éviter que les abonnés ne prennent tout ce qu'ils voient pour argent comptant. Inutile, selon Netflix, qui s'est dit convaincu que ses abonnés avaient bien compris qu'il s'agissait d'une fiction inspirée de faits réels. La plateforme a été très claire, je cite, « Nous n'avons pas prévu et nous ne voyons pas l'utilité » d'ajouter un avertissement avant chaque épisode.
The Crown, dont on entend la musique du générique. Merci beaucoup Charles Decaux, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Et ces infos, vous pouvez les retrouver sur la newsletter Média d'Europe 1, c'est gratuit. Inscription sur Europe 1.fr.